Vous écoutez, on lit pour vous.
Les soins palliatifs pour ceux qui vivent. Un dossier de Rima El-Khoury, paru le 20 mai 2024 dans la presse. Dans l'imaginaire collectif, les soins palliatifs sont associés à la mort. En réalité, ces soins, qui gagneraient à être mieux reconnus et plus accessibles, vont bien au-delà de la gestion de la douleur en fin de vie. Ils permettent de redonner une qualité de vie à des patients gravement malades. Danielle Arbour, survivante du cancer, raconte comment cela a changé sa vie. Une vie meilleure et inespérée. Quand elle est entrée dans le bureau de la docteure Olivia Nogan, médecin de soins palliatifs, Danielle Arbour était si souffrante et désespérée qu'elle pensait mourir. « Vous m'auriez dit que je serais ici 3 ans plus tard à vous parler, je ne l'aurais pas cru », dit la dame de 67 ans, résidente de Blainville. Danielle, qui mène aujourd'hui une vie heureuse, revient de loin. En 2020, après avoir survécu à 2 cancers, l'ex-barmaid pensait être enfin au bout de ses peines. Après des traitements de chimiothérapie, de radiothérapie et d'immunothérapie, le pire était derrière elle, croyait-elle. J'étais sûre que j'étais guérie. J'avais acheté du champagne, j'avais invité la famille. Au lieu de la fête dont elle rêvait déjà à la fin de ses traitements, Danielle a reçu un coup de massue. On lui a annoncé qu'elle avait un autre cancer très agressif. Il fallait l'opérer d'urgence. À la suite de son opération, Danielle a été incapable de manger pendant 7 mois. Elle avait une qualité de vie exécrable. Elle était faible et très amaigrie. Le moral à terre, d'autant plus que tout se bousculait dans sa vie. En plus de perdre sa santé, elle avait perdu son emploi, son chum, sa maison. Je prenais 35 pilules par jour. Je dormais 18 heures par jour. Je ne pesais plus que 108 livres. Lorsqu'on lui a dit qu'elle aurait besoin d'un tube dans l'estomac pour la gaver, c'en était trop pour elle. C'est là que j'ai baissé les bras pour la première fois de ma vie. Je suis une fonceuse dans la vie, mais après tout ce que j'avais enduré depuis 6 ans, je me disais, ce n'est pas vrai que je vais retourner chez moi avec une machine pour me gaver. Ça me prend une qualité de vie. Je veux être capable un jour de manger du poisson et de reprendre un verre de vin. » À son infirmière pivot, Danielle a confié qu'elle envisageait l'aide médicale à mourir. C'est là qu'on lui a parlé de soins palliatifs. « Quand on m'en a parlé, dans ma tête, c'était la fin », raconte-t-elle. « Elle n'imaginait pas que ce serait, au contraire, le début d'une nouvelle vie. » Danielle n'est pas la seule à associer spontanément les soins palliatifs à la mort. J'avoue que c'est aussi l'idée que je m'en faisais, une conception réductrice que la docteure Olivia Nogan, présidente de la Société québécoise des médecins de soins palliatifs, souhaite défaire. Dans l'imaginaire collectif et même dans le système de santé, les soins palliatifs, c'est la mort, c'est la fin de vie. Alors que l'on sait depuis plus de 10 ans que les soins palliatifs améliorent la qualité de vie des gens qui ont des maladies graves et sévères, observe la docteure Nogan, professeure adjointe de clinique à l'Université de Montréal. Elle se rappelle la mission que lui a confiée l'infirmière pivot de Danielle. « Olivia, j'ai une patiente, je lui ai dit que tu ferais des miracles. »« Des miracles, calmons-nous. » s'est dit en rigolant la docteure Nogan, qui était néanmoins prête à relever le défi, données scientifiques à l'appui. En discutant avec Danielle, la médecin a bien senti l'étendue de sa détresse et élaboré un plan de match avec elle pour soulager sa douleur. Elle était désespérée, se souvient docteur Olivia Nogan, mais elle ne voulait pas vraiment mourir, en fait. Elle voulait juste être soulagée. Elle l'a écoutée, elle l'a soutenue, elle a ajusté ses médicaments, elle a proposé des changements dans son alimentation, et rapidement, Daniel a repris goût à la vie. Avec le recul, en comparant le désespoir dans lequel elle était plongée la première fois qu'elle a rencontré Dr. Olivia et la belle vie qu'elle mène aujourd'hui, Daniel a le sentiment que son infirmière pivot avait raison de parler de « miracle ». Dr. Olivia, avec son charisme, est venue me chercher. « C'est une femme de cœur. J'étais à terre. Maintenant, je suis debout. Oui, elle a fait des miracles, notamment avec mes pilules. » Vous écoutez « Les soins palliatifs pour ceux qui vivent », un dossier de Rima El-Khoury, paru le 20 mai 2024 dans la presse. Aujourd'hui, Daniel ne prend plus aucun médicament, mis à part un demi-somnifère avant de dormir. Elle se porte si bien que la docteure Nugent lui a donné congé de sa clinique externe de médecine palliative. Elle, qui se croyait condamnée, elle savoure chaque moment de joie. Au lieu de penser à ce qu'elle ne peut plus faire, sortir jusqu'au bout de la nuit, elle apprécie tout ce qu'elle peut encore faire. Les marches quotidiennes avec son chien Yuki, qu'on lui a offert à sa sortie de l'hôpital il y a 3 ans. Le petit verre de vin qu'elle se permet à l'occasion. Elle qui ne pensait plus jamais travailler, elle enfile son tablier de serveuse 15 heures par semaine dans une résidence pour personnes âgées depuis 1 an et demi. Un emploi très valorisant qui lui permet d'arrondir ses fins de mois tout en comblant la barmaid sociable en elle. Elle, qui ne croyait pas vivre assez longtemps pour être grand-mère, elle se réjouit à l'idée de vivre ce grand bonheur en juillet aux côtés de sa fille. À ceux qui, comme elle, auront un jour à recevoir une très mauvaise nouvelle, Daniel aime dire « Ne mettez pas un point final à votre vie tout de suite. Mettez une virgule. » Pour elle, les soins palliatifs auront été cette virgule inespérée dans une vie encore ponctuée de bonheur. Des pionniers en retard. Alors que le Québec est un pionnier dans le domaine des soins palliatifs, il accuse aujourd'hui du retard. On doit au Dr. Balfour Mount, professeur émérite à l'Université McGill et inventeur de l'expression « soins palliatifs », la mise sur pied il y a près de 50 ans à Montréal, de l'unité intégrée de soins palliatifs de l'hôpital Royal Victoria, la première du genre en Amérique du Nord. Le Dr. Mount s'est inspiré de l'approche avant-gardiste de Cicely Saunders, infirmière, travailleuse sociale et médecin anglaise, qui a fondé le premier hospice moderne en Angleterre en 1967. La première unité francophone de soins palliatifs dans le monde a aussi vu le jour à Montréal, à l'hôpital Notre-Dame, en 1979. Pionnier un jour ne veut malheureusement pas dire pionnier toujours. En soins palliatifs, on a tous l'impression que l'on est mal compris, mal perçu et que l'on pourrait faire tellement mieux au Québec, dit la docteure Olivia Nugent, présidente de la Société québécoise des médecins de soins palliatifs. La spécialité en médecine palliative n'est pas reconnue au Québec comme elle l'est dans les autres provinces. L'accès est inégal d'une région à l'autre et est trop souvent tardif. Et l'amalgame soins palliatifs et fin de vie, qui nuit à la prise en charge précoce préconisée par les experts, demeure tenace. C'est profondément dommage. Parce que l'on sait que d'avoir une approche palliative tôt dans la maladie, ça améliore la qualité de vie des gens. Ils se sentent mieux. Ils vivent mieux. Ça améliore aussi la qualité de vie des proches qui ressentent moins de détresse, se sentent soutenus. L'exemple de Daniel Arbour, qui a retrouvé une belle qualité de vie grâce aux soins palliatifs, est éloquent en ce sens. Malheureusement, les personnes comme Daniel ne sont pas la majorité des personnes que nous suivons en soins palliatifs, entre autres à cause de la conception selon laquelle soins palliatifs égale la fin. Donc, trop souvent, les références sont trop tardives, observe la docteure Nugent. Afin de démystifier les soins palliatifs et de mieux expliquer leur objectif premier, obtenir pour les patients atteints de maladies graves et leurs proches la meilleure qualité de vie possible, la Coalition du Québec pour l'accès aux soins palliatifs a lancé récemment une campagne qui met en lumière l'impact positif de ces soins sur le bien-être des patients. S'il est vrai que les soins palliatifs permettent une meilleure gestion de la douleur en fin de vie, ils ne se limitent pas à ces seuls soins. Ils peuvent aussi être complémentaires à des traitements curatifs dès l'annonce d'un diagnostic. On essaie d'aider les gens à savourer la vie comme ils le souhaitent, indépendamment de ce qui arrive dans le futur, nous dit la docteure Olivia Nogan. Avec la forte hausse des cancers chez des gens de plus en plus jeunes, l'accès à des soins palliatifs de qualité est appelé à devenir un enjeu d'importance pour tous, rappelle la docteure Nogan. On a l'impression que c'est un immense lot de souffrance qui s'en vient. On sait que les coûts du système de santé sont en croissance exponentielle et on a l'impression qu'avoir une approche palliative ou davantage de soins palliatifs, ça pourrait aider non seulement à diminuer la souffrance, mais aussi, d'un point de vue économique, à réduire les coûts du système. Il faut préciser par ailleurs que les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir peuvent être complémentaires. Le débat sur l'aide médicale à mourir a entraîné un clivage et une certaine confusion, donnant à croire qu'il fallait choisir l'un ou l'autre. Les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir ont été mis en opposition comme si on ne pouvait pas vouloir les deux. Et cela a probablement nui aux soins palliatifs, constate la docteure Nogan. Pourtant, la volonté de Véronique Yvon, qui a porté le dossier « Mourir dans la dignité », était aussi d'améliorer les soins palliatifs, rappelle-t-elle. Vous écoutez « Les soins palliatifs pour ceux qui vivent », un dossier de Rima El-Khoury, paru le 20 mai 2024 dans La Presse. Des patients qui demandent l'aide médicale à mourir devraient aussi pouvoir bénéficier de soins palliatifs, dit la docteure Nogan. En attendant l'aide médicale à mourir, ils vivent encore. Donc, si on peut soulager leurs symptômes et améliorer leur qualité de vie jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent, c'est aussi très bien. Personne ne devrait vivre dans d'atroces souffrances jusqu'à son aide médicale à mourir. Québec en mode gros rattrapage. Québec reconnaît avoir pris beaucoup de retard en matière de soins palliatifs durant la pandémie et promet de mettre les bouchées doubles afin d'atteindre les objectifs fixés dans son plan d'action 2020-2025 pour un accès équitable à des soins palliatifs et de fin de vie de qualité. On sait que l'on est en retard d'environ 2 ans. Là, on est vraiment en mode gros rattrapage. On est en action à la vitesse grand V, dit Léa Fortin, attachée de presse de la ministre responsable des aînés Sonia Bélanger, qui porte ce dossier au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS. Mis à part les progrès réalisés pour faciliter l'accès à l'aide médicale à mourir, les autres mesures promises dans le plan d'action gouvernemental tardent à voir le jour. Au-delà des retards entraînés par la pandémie, la pénurie de personnel dans le réseau de la santé complique les choses en matière d'accès équitable à des soins palliatifs dans toutes les régions du Québec, souligne-t-on. La ministre reconnaît l'importance des soins palliatifs et veut l'aborder davantage. Il n'y a pas juste l'aide médicale à mourir dans les soins de fin de vie. La docteure Olivia Nogan, présidente de la Société québécoise des médecins de soins palliatifs, souhaiterait que soit créée au sein du MSSS une direction distincte en soins palliatifs, comme on en a en cancérologie, par exemple. En ce moment, le MSSS parle de soins palliatifs dans plusieurs plans d'action, proche aidance, cancer, aînés, etc., mais il n'y a pas de gouvernance claire, déplore-t-elle. Bien qu'il s'agisse d'une priorité énoncée dans le plan d'action 2020-2025, elle ne s'est toujours pas concrétisée. Il y aura éventuellement des discussions à ce sujet avec Santé Québec, nous dit-on. Une autre priorité, serait de reconnaître l'expertise des professionnels formés en soins palliatifs. Bien que le Québec ait été un pionnier en la matière, la spécialité en médecine palliative n'y est étrangement pas reconnue, comme elle l'est ailleurs au pays. Par ailleurs, les médecins de famille qui font une année supplémentaire en soins palliatifs n'ont pas accès à des postes qui mettraient leur expertise à profit. Le Collège des médecins ne ferme pas la porte à une possible reconnaissance de cette expertise, indique son président, le Dr Moril Gaudreau. Les soins palliatifs sont une importante composante de l'offre des soins de fin de vie. Le Collège tient d'ailleurs un webinaire sur cette pratique jeudi prochain. À cette occasion, le Collège pourrait annoncer qu'il se penchera sur la question de la reconnaissance des compétences spécifiques de cette pratique. Ce serait un pas dans la bonne direction. C'était Les soins palliatifs pour ceux qui vivent, un dossier de Rima El-Khoury, paru le 20 mai 2024 dans La Presse.
De plus en plus de mères surprotègent leurs bébés. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 12 juin 2024 dans La Presse. Quelque 30 % des mères québécoises surprotègent leurs bébés, selon une nouvelle étude de l'Institut de la statistique du Québec, ISQ, qui montre aussi une hausse de plusieurs comportements positifs dans la relation parent-bébé. Le tiers des mères. De plus en plus de mères surprotègent leurs bébés au Québec. C'est ce que révèle la nouvelle publication « Pratiques et attitudes parentales, relations, santé et bien-être des mères et des pères », réalisée à partir de l'étude longitudinale « Grandir au Québec ». Cette étude suivra jusqu'à l'âge adulte plus de 4000 enfants nés en 2020-2021. Les premiers résultats dévoilés mardi le 11 juin 2024 montrent qu'un peu moins du tiers des mères, 30 % surprotègent leur bébé, alors qu'elles étaient 18 % à le faire dans la cohorte précédente étudiée par l'ISQ, et qui portait sur des enfants nés en 1997-1998. Près de soi en tout temps. La surprotection parentale englobe les comportements de protection qui sont excessifs au regard du stade développemental de l'enfant, note Christine Doucet, professionnelle de recherche aux études longitudinales de l'ISQ, et auteur de la publication. Par exemple, il peut s'agir de tenir absolument à avoir son bébé près de soi en tout temps, de se sentir mal de faire garder son bébé, etc. Symptômes dépressifs. Les jeunes parents interrogés par les chercheurs étaient aussi nombreux à présenter des symptômes dépressifs. Durant la semaine ayant précédé l'étude, les mères d'environ 29 % des bébés et les pères d'environ 14 % des bébés présentaient des symptômes d'un niveau de sévérité indiquant une probable dépression clinique. Ils notent que la collecte de données a eu lieu durant la pandémie de COVID-19, un événement qui a affecté la santé mentale générale de la population. De plus, 33 % des mères et 26 % des pères disaient aussi avoir fréquemment l'impression de courir toute la journée. Moins de coercition. L'étude a aussi permis de mettre en lumière plusieurs changements positifs dans la relation parent-bébé. Par exemple, pour la cohorte 1997-1998, 19 % des pères faisaient de la coercition parentale, c'est-à-dire qu'ils criaient ou se fâchaient lorsque leur bébé se montrait difficile. Cette proportion est passée à 12 % lors de la plus récente étude. Il n'y a pas beaucoup d'enquêtes qui peuvent comparer deux cohortes dans le temps, donc c'est très intéressant, signale Mme Doucet. Temps d'écran inquiétant chez les parents. L'une des variables nouvellement étudiées est l'effet du temps d'écran des parents sur leur relation avec leur bébé. L'étude a montré qu'une mère sur cinq passait 5 heures ou plus par jour devant un écran la semaine en dehors du travail. Chez les pères, ils sont 12 % la semaine à avoir ce comportement. Les études sur le sujet démontrent qu'il pourrait y avoir un impact sur le développement de l'enfant, note Mme Doucet. Plus les heures passées devant un écran chaque jour par les parents sont élevées, plus le niveau de développement de l'enfant est faible 1 an plus tard. Donc, c'est quelque chose qu'on va continuer à suivre. Plus de pères engagés. Un grand nombre de nouveaux pères se disaient très engagés auprès de leur nouveau-né. Ils sont 82 % à dire qu'ils sont présents physiquement, émotionnellement et pour jouer avec leur enfant. C'est important car d'autres recherches ont montré que l'engagement des pères agit positivement sur le développement émotionnel et cognitif des enfants, sur leur réussite scolaire. Note Mme Doucet. La lecture fait aussi partie de la vie de nombreux bébés. Note l'étude. À 5 mois, près de 4 enfants sur 10, 39 % se faisaient quotidiennement faire la lecture ou montrer des images ou des livres sans texte par un adulte de la maison, signalent les chercheurs. C'était De plus en plus de mères surprotègent leur bébé. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 12 juin 2024 dans La Presse.
Il y a davantage de personnel en santé par habitant qu'il y a 30 ans, selon l'IRIS, un texte de Catherine Desautels de La Presse canadienne, paru le 21 mai 2024 dans Le Devoir. Lorsqu'on prend en compte l'ensemble de la main-d'œuvre en santé, au privé comme au public, tout type de métiers confondus, il n'y a pas de pénurie de personnel, indique une nouvelle étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS. Il s'agit plutôt d'un exode des employés du public vers le privé, selon les données du marché de l'emploi. C'est ce qu'explique Anne Plourde, chercheuse à l'IRIS spécialisée en politique de santé. Dans son étude publiée mardi le 21 mai 2024, elle affirme que la main-d'œuvre totale en santé et services sociaux par habitant, provenant des secteurs publics et privés, était 35 % plus élevée en 2022 qu'il y a 30 ans. Selon son analyse, il y a 132 000 personnes de plus qui exercent dans ce secteur qu'en 1991. Dans son calcul, Mme Plourde tient compte du vieillissement de la population et de ses besoins plus importants. L'étude de l'IRIS souligne que les personnes de 65 ans et plus représentent 20 % de la population, mais elles comptent pour 47 % des dépenses en santé, c'est-à-dire 2,3 fois plus que leur poids démographique. La chercheuse nuance que la pénurie est bien réelle pour les infirmières et que du côté des médecins, les effectifs par habitant stagnent. Elle reconnaît que ces deux professions sont des piliers du système de santé québécois, notamment, dit-elle, parce que le système est davantage axé sur les soins curatifs que la prévention. Même lorsqu'on écarte le vieillissement de la population, il y a une prévalence de certaines maladies qui seraient évitables s'il y avait une meilleure application de la prévention dans le système de santé, selon Mme Plourde. On a un discours public qui est très axé sur le fait qu'on a une pénurie de main-d'œuvre en santé et services sociaux, et c'est souvent présenté comme un fait incontestable, a déclaré la chercheuse en entrevue. Mais quand on analyse les données, on constate que c'est plus complexe qu'on croit. Quand on regarde la main-d'œuvre dans son ensemble, incluant le secteur privé et le secteur public, on constate en fait qu'il y a plus de main-d'œuvre maintenant que dans les 30 dernières années. Dans le secteur public, là, il y a véritablement un manque chronique de main-d'œuvre depuis de nombreuses années. Madame Plourde compare les effectifs actuels à 1991, puisqu'il s'agit d'une époque où il y avait un surplus de personnel. Dans son étude, elle indique que les effectifs du réseau public représentaient 86 % de l'ensemble de la population active en santé et services sociaux. Cette proportion avait chuté à 54 % en 2022. L'IRIS estime qu'il faudrait ajouter quelque 45 000 employés pour retrouver le ratio de 1991. Le manque chronique de personnel qu'on constate dans le réseau public va s'aggraver si rien n'est fait pour rapatrier la main-d'œuvre qui est actuellement à l'extérieur du réseau public, s'inquiète Mme Plourde. Il y a aussi une nécessité de former davantage de main-d'œuvre pour arriver à combler les besoins éventuels. La chercheuse affirme qu'il faut embaucher davantage que le manque d'employés actuels dans le réseau public, justement pour faire face aux besoins qui risquent de croître. Le risque d'accentuer la privatisation. Madame Plourde est d'avis que les trois plus récentes réformes du système de santé au Québec, le virage ambulatoire, la réforme Couillard du début des années 2000 et la réforme Barrette de 2015 ont toutes contribué à une dégradation des conditions de travail du personnel de la santé. Comme argument, elle parle des heures de travail supplémentaires dans le réseau public, qui ont augmenté au fil des années. Elle soutient que la proportion de rémunération totale consacrée à ces heures, à ne pas confondre avec les heures de travail supplémentaires obligatoires, est passée de 1 à 6% entre 1991 et 2020. Elle craint que le transfert du personnel du public vers le privé se poursuive avec la réforme de l'Agence Santé Québec. La réforme qui est mise en place actuellement va probablement malheureusement accentuer ces tendances au lieu de renverser la vapeur, soutient Mme Plourde. Elle dénonce aussi les enjeux d'organisation dans le système de santé. Le fait que nos services soient fortement centrés sur les médecins et les services curatifs fait en sorte que ça génère des problèmes d'accès parce qu'on ne mobilise pas suffisamment le reste de l'équipe multidisciplinaire, explique-t-elle. Une foule d'autres professionnels, comme les physiothérapeutes, les travailleuses sociales, les ergothérapeutes et bien d'autres, pourraient améliorer l'accès aux services. Ces professionnels sont disponibles en grand nombre, dit la chercheuse, mais ils ne sont pas accessibles à l'ensemble de la population parce qu'ils se trouvent dans le secteur privé à but lucratif. C'était « Il y a davantage de personnel en santé par habitant qu'il y a 30 ans », selon l'IRIS. Un texte de Catherine Desautels de la Presse canadienne, paru le 21 mai 2024 dans Le Devoir.